Jean Lorrain, l'impossible alibi. Dans le dénuement d'une vaste pièce vide, rez-de-chaussée à louer, atelier ou magasin devenu un logement de pauvres, un homme en robe de chambre était assis, un homme dont on ne voyait pas le visage. La tête dans ses mains, les coudes appuyés à une table, il lisait. Un homme, une silhouette d'homme plutôt, car cette apparence de vivant semblait se fondre et se dissoudre dans de l'ombre. L'ombre de la nuit qui tombait rapide, entassant des ténèbres dans les angles et reculant étrangement le plafond, car tout devenait étrange dans la vaste chambre triste. Étrange, ce liseur obstiné, malgré l'obscurité grandissante. Étrange, son immobilité d'automate. Et plus étrange encore, le silence effrayant, angoissant, de ce grand logement nu, où l'on n'entendait même pas le bruit d'une respiration. Un grand châssis vitré, aux rideaux tirés, s'ouvrait au bout sur une petite rue morne, et un allumeur de gaz y passait. Un réverbère s'éveillait, un pan de mur s'éclairait. En face, récemment blanchi à la chaux, grand carré de pâleur crue, dont s'aggravait encore l'obscurité de ce logis de silence, et la silhouette de ce liseur inquiétant. Puis deux sergents de ville encapuchonnés s'encadraient dans la grande baie lumineuse, deux sergents de ville battant leur quart. Un coup d'œil oblique dans la chambre ténébreuse et sur l'homme assis, et ils étaient passés, ils étaient partis. Et tout à coup, une grande clarté rouge, un geyser de flammes et un bruit effroyable. Détonation ou effondrement? Et toute la chambre et la toute petite rue étaient illuminées d'un reflet d'incendie, d'un immense vacillement de tout le ciel empourpré, et puis soudain éteint. Et les carreaux d'une petite porte vitrée qui donnait à gauche tombaient en éclats. Et puis le silence. L'affreux silence, plus affreux encore après tout ce tumulte, et dans l'affreuse chambre nue, la plus affreuse nuit. Alors le cri d'une clé grinçait dans la serrure, la porte s'ouvrait, se refermait, la clé grinçait encore, et comme une trombe, un homme se précipitait dans la chambre qui se jetait sur le liseur, le prenait aux épaules, le terrassait, lui arrachait sa robe de chambre, s'en enveloppait et s'asseyait brusquement, le front dans les mains, les coudes à la table, dans la même attitude que le mannequin gisant, maintenant les membres jetés de ci de là, ridicule et tordu. Et les sergents de ville passaient en courant. L'homme au geste meurtrier se levait et allait ostensiblement à la fenêtre. Il se penchait en dehors et demandait aux agents la cause de ces flammes et de ce bruit. Mais ils ne savaient pas. Ils allaient voir. Quelque explosion, sans doute. Encore un coup de ces sacrés anarchistes. L'homme alors refermait la fenêtre, rabattait hermétiquement les volets, et revenant à la cheminée, en soulevait le tablier, allumait à la hâte quelques brassées de bois blanc et leur ami qui était disposé. Les agents l'avaient vu, son alibi était bien établi. Puis rassuré, il s'agenouillait auprès du mannequin et le décarcassait. Fébrilement, hâtivement, il décortiquait ce veston bourré de chiffons et d'étoupes, jetait le tout au feu avec la perruque et le masque. Et dans les ténèbres tremblantes, les flammes de la cheminée avaient l'air d'éclairer un dépècement de cadavres. Un chourineur en train de supprimer de déplorables restes. L'homme alors se relevait. Un lent regard circulaire promenait autour de lui, et il respirait longuement, bruyamment, soulagé enfin, mais soudain s'affalait sur sa chaise, à bout de force, vidé de toute son énergie. La détente de cette terrible heure d'angoisse, la prostration qui suit les grandes dépenses de force nerveuse et le supplice de l'homme qui a tué commençait. Tout prenait corps et devenait un danger dans la solitude de la grande chambre nue. Ces braises du foyer l'éclairaient si bizarrement. La malice des choses s'embusquait au carrefour de la nuit. C'était, le long des murs, accroupies et soudain redressées, des silhouettes veilleuses et menaçantes. Partout une âme noire et terrible s'agitait pour torturer l'homme misérable et vaincu. La police, une descente de police chez lui. Un pas avait glissé sur le parquet, un pas furtif comme feutré. Et l'homme dressait l'oreille. Ce n'était qu'un trou de souris. Le bois de lit avait craqué, non. Qui donc avait fait remuer la porte? Pourquoi ce frisson apeuré dans le sursaut des flammes à l'agonie et cette sarabande obsédante et folle d'ombres dansantes autour de la pièce, ce tournoiement éperdu de masques et de grimaces qui donnait le vertige à l'anarchiste? Une angoisse affreuse tenaillait l'âme. Son cœur battait à se rompre. La tête lui tournait, un poids énorme écrasait sa poitrine, et l'hystérie de la peur le tenait, l'étranglant au gosier, raréfiant sa salive. Et l'anarchiste, d'un effort, se levait, allait vers le châssis, l'ouvrait tout grand, respirait l'air nocturne, et puis, un peu calmé, s'approchait de la table et allumait une lampe. La lampe, la clarté. Et s'installant à la table là, dans la lumière rassurante, l'homme essayait d'écrire. Écrire, mais chose terrible, sa main tremblait. En vain s'efforçait-il de la maintenir, la main tremblait toujours. Le tremblement gagnait le poignet, le bras, l'épaule, et halluciné d'épouvante, l'homme regardait, tremblé sur le papier, cette main frénétique qui désormais tremblerait toujours. Alors il jetait la plume loin de lui et tentait l'effort d'une lecture. Il allait prendre sur la cheminée, parmi 3 ou 4 volumes, étayés debout, contre le mur, une revue non coupée, et revenait s'asseoir à la table. Mais les volumes dérangés s'écroulaient sur le marbre avec un bruit mat, et l'homme terrifié sursautait. Ses prunelles regardaient, effacées, agrandies. Rien, non, ce n'était rien. Et avec son mouchoir, l'homme épongeait son front moite. Et voilà que devant le châssis, une ombre passait. Une ombre, mais d'où venait-elle? Et dans le même instant, une lettre tombait dans la boîte de la porte vitrée. Pourquoi cette lettre? Et l'homme avait peur de cette lettre. Il allait la retirer pourtant et s'approchait de la lampe pour en ouvrir l'enveloppe. Mais depuis une minute, sans qu'il s'en rendît compte, la lampe avait baissé, et en voulant déchiffrer l'écriture, l'homme s'avisait avec effroi que tout était obscur autour de lui. Et brusquement, l'homme tentait de monter la lampe et maladroitement l'éteignait. Et c'était la nuit soudaine. Le mystère angoissant des ténèbres plus denses, le feu à demi-mort, les flammes assoupies sur les tisons à demi-consumés, la terreur grandissante dans la chambre noire et hantée. Et alors, à cette minute, à la porte, 3 petits coups discrets étaient frappés. 3 coups. Une terreur folle assaillait l'anarchiste. Il voulut fuir au galop, n'importe où, se cacher dans un coin, se jeter, la tête enfoncée dans ses mains, sous la table. Et les doigts heurtaient contre lui, les mêmes 3 petits coups secs. Et, redressé de toute son énergie, l'homme gagnait à tâtons la cheminée, jetait au foyer une poignée de ramilles, et les flammes ayant jailli prenaient sur lui d'aller rouvrir. Et elle entrait. À pas menus, une petite vieille était entrée dans la chambre. Une petite vieille en deuil, proprette et discrète, un parapluie sous le bras, des mitaines aux mains, un chapeau cabriolet sur la tête. Elle était neutre et démodée, avec un cabas en tapisserie au bout des doigts, un regard en tapis noir embusqué sous des lunettes minces. Silencieuse et doucereuse, elle allait à l'anarchiste qui reculait, et quand elle l'eut acculé au mur, elle lui tapa l'épaule, le flatta et le complimenta. Oh, la terreur de l'anarchiste et la détresse de ses regards effarés! Et la petite vieille s'approchait de la table, ouvrait son cabas et en sortait une bombe. Une bombe en tout point semblable à l'autre. Non, pas ça, pas ça! Et de la main, l'anarchiste faisait signe que non, qu'il en avait assez, qu'il ne voulait pas qu'elle eût à remporter sa bombe. Mais la petite vieille souriait toujours avec une lueur aiguë dans les petits yeux obliques, et son ironie mielleuse devenait menaçante. Son geste et son attitude maintenant ordonnaient. L'anarchiste lui appartenait. N'était-il pas son complice, sa propriété, sa chose? Son premier attentat l'avait fait sien. Il lui avait obéi une fois, il lui obéirait toujours. Elle était l'anarchie, avec un grand A, l'anonyme et terrible et despotique anarchie, qui ne permet pas qu'on l'abandonne et qu'on la lâche, elle, comme une banale et pitoyable maîtresse. Elle était sans pitié. Sans pitié était sa devise, et elle disposait de lui, de sa volonté, de sa vie, de son âme, comme de sa vie, de l'âme et de la volonté de tous les siens. Il irait porter cette bombe. Et l'anarchiste maté, vaincu, acquiesçait d'un geste humble, tandis qu'un petit pas discret, le geste patelin, la petite vieille sortait à reculons, s'enfonçait vers la porte dans l'épaisseur du mur et le noir de la nuit. Et l'homme, demeuré seul, regardait cette bombe, et puis, fasciné, s'approchait. Un grand mouvement de foule se produisait alors devant la fenêtre ouverte. Des cris de mort étaient vociférés. Une escouade de sergents de ville passait, escortant un convoi de blessés et de cadavres, et des civières défilaient. Les unes étaient recouvertes d'un drap blanc, les autres étalaient des crânes ouverts, des membres tordus, des figures charcutées et sanglantes. Et l'homme, d'un mouvement machinal, s'emparait de la bombe pour la cacher, mais sa main tremblait, il ne pouvait la retenir, et toute sa face se révulsait dans une indicible épouvante. Et l'explosion retentissait, fracassante, des membres lacérés, de la chair en bouillie jaillissaient, éclaboussés de sang, et une grande clarté rouge, un immense flamboiement, illuminait les poutres et les charpentes d'un effondrement vaste. Et cela s'intitulait L'impossible alibi. Et tant de mystères, d'angoisses, de fantastiques et d'effrois grandissants dans ce cadre miséreux et cruellement moderne, tout cela constituait une poignante et injouable pantomime, une œuvre quasi géniale par l'obsession d'horreur du drame intime, atroce et lancinant. Elle était signée du peintre L. W. Hoskins, et j'avais aimé cette œuvre ténébreuse et aiguë, où il y avait, pour moi, du moins, comme une atmosphère d'Edgar Poe dans ce meurtre d'un mannequin, et comme une espèce, une entrée de masque dans la courte et discrète, mais terrifiante visite de l'anarchie à l'anarchiste, cette petite vieille si proprette à cabas et à lunettes. Les moindres gestes de l'homme, son alibi établi grâce à son double, le mannequin installé en son lieu et place, l'assassinat du fantoche et son dépècement à la flamme tremblotante d'une pauvre feu de bois blanc, tout cela fleurait une âcre et pénétrante odeur de crime. Tout cela suait la peur, la misère, l'alcool et la folie du traquenard et des déguisements. L'alibi de l'anarchiste était organisé comme un guet-apens, et les hallucinations vengeresses du misérable y étaient bien plus des spectres de repères que des fantômes de taudis. cet impossible alibi de R.W. Hopkins, je tentais violemment, hélas, de l'imposer à Antoine, puis à Lugnepeu. Tous deux ont monté depuis de longues œuvres qui ne valent pas les 30 minutes d'angoisse du personnage d'Hopkins. Je devais retrouver l'impossible alibi, déformé, dénaturé, ravalé au niveau d'une espèce de soliloque sentimental au funambule. Vision d'éther et de gin édulcoré échangé en petit acte moral à l'usage des familles par une collaboration. Si non coupable, imbécile, la conscience, les affres de l'homme qui a tué y était devenu la conscience. Pauvre Hopkins, pauvre impossible alibi. Voilà pourquoi il m'a plu, en plein soleil de la Riviera, dans le fauve et le bleu d'un paysage méditerranéen, à la veille des oripeaux, des paillons et les joies d'une mi-carême de Nice, d'évoquer et de faire revivre dans une histoire de masque la terrible vision de froid, de brume, d'alcool et de misère, l'effarante hallucination de révolte et de banlieue parisienne qu'était l'impossible alibi.